Chevalet, bonjour.
Bonjour, Guylaine Dubois.
Et Jean-Marie Rossignol, bonjour.
Roussignol, bonjour.
Roussignol, oh là, j'ai oublié le U. C'est tellement beau, Rossignol.
N'est-ce pas?
Alors, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous représentez tous les deux l'ICEO, l'Institut de coopération avec l'Europe orientale. Le thème de cette émission d'aujourd'hui sera la scolarisation et l'alphabétisation des Roms de l'Union européenne. Et à travers ce souci de la scolarisation, probablement aussi la résolution peut-être des problèmes d'exclusion et de misère économique qui sont visés en fait derrière ce souci de scolarisation. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais... Jean-Pierre Chevalet, que nous revenions sur cette appellation des Roms. Qui sont-ils? Une appellation que nous allons utiliser tout au long de l'émission. Et au fond, peut-être pourriez-vous nous redire d'abord ce qu'est l'ICEO, bien sûr, et aussi peut-être qui sont les Roms. C'est bon de rappeler à nos auditeurs et auditrices de quoi nous parlons avant même de nous attaquer à la scolarisation.
Donc, pour ce qui est d'ICEO, je pense qu'il faut être suffisamment bref parce que ça fait plusieurs émissions qu'on en parle. Donc,
absolument.
C'est une association qui a été créée en décembre 1989, donc ça doit vous rappeler quelque chose, tout de suite après la chute du mur de Berlin. C'est une association qui s'est donnée pour objectif de regrouper tous les gens qui avaient une connaissance des anciens pays communistes et qui devaient favoriser la connaissance et la compréhension, hein, puisque la devise d'ICEO, c'est apprendre à se connaître pour pouvoir se comprendre. Donc, c'était la philosophie de tout ce qu'on a fait. Alors, pour ce qui est du sujet Rome qu'on aborde plus précisément aujourd'hui, ce ICEO a travaillé... il faut savoir que les populations Roms sont très, très représentées dans les anciens PECO. Hein, donc, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie, etc. Et donc, tout naturellement, comme c'est notre sphère d'influence et de travail au niveau de l'association... On se sentait concerné par ce problème. On s'est senti doublement concerné par ce problème suite à la polémique qu'il y a eu en août 2010 avec les propos qu'a tenu le président Sarkozy et qui ont fait grande polémique. C'est-à-dire que toutes les gens se sont retranchés derrière des postures morales, qu'il ne fallait pas être raciste, qu'il ne fallait pas être ceci. Mais bon, la posture morale, la moraline, ça ne règle aucun problème. Hein. Et comme je dis, les écologistes qui sont très soucieux de la vie des ours, une fois qu'ils disent qu'il ne faut pas être méchant avec les ours, ils n'ont rien réglé. Parce qu'après, par exemple, dans les Pyrénées, la réalisation pratique du maintien des ours dans les Pyrénées, c'est un problème très très complexe. Eh bien, la scolarisation et le vivre ensemble avec les populations ziganes et roms est un problème très complexe. Il est tellement complexe que ça fait des siècles que ça dure. Donc avoir la prétention comme Madame Reding de le régler en deux subventions européennes, c'est avoir rien compris au problème. Hein. Et c'est ce sur quoi on insistera dans une autre émission sur la géopolitique, c'est-à-dire que pour réfléchir sur des problèmes complexes, il faut réfléchir dans le temps long, parce que les gens ne sont pas méchants de nature. S'ils sont méchants, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant. Hein. Et quelqu'un de blessé, si vous ne connaissez pas sa blessure, vous risquez de lui faire faire des bêtises et de le tuer. Donc au niveau des Roms, nous utilisons le mot Rome parce que... c'est le mot qui a été reconnu au niveau européen comme Rome avec deux R, parce que les Roumains ont tenu absolument à ce qu'il y ait deux R, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait confusion entre Roumains de Roumanie et Rome zigane. Donc le mot qu'on utilise en général, c'est Rome avec deux R, parce que c'est un mot générique qui regroupe tous les gens qui ont une métaculture commune, c'est-à-dire...
Et c'est aussi, pardon, voilà. C'est aussi, c'est aussi un terme que les Roms ont choisi eux-mêmes, que les Tziganes et toutes
certaines associations de Roms
ont choisi. Ils ont fait le choix de ce terme-là qui remonte à leur langue romanie traditionnelle.
Alors, Jean-Marie Roussignol, merci d'être intervenu. Et vous êtes aujourd'hui le spécialiste de la scolarisation de ce projet de scolarisation des Roms. Alors peut-être on devrait revenir un peu sur l'ampleur de ce projet et ce qu'il en est exactement des intentions.
Oui. Mais on peut dire aussi que par le fait que nous allons souvent dans ces pays d'Europe centrale et orientale, nous avons pu constater l'importance de cette population dans ces pays-là, que ce soit en Bulgarie, que ce soit en Roumanie, en Hongrie, etc. Et de voir les problèmes que posaient leur cohabitation avec les populations majoritaires de ces pays-là. Donc nous avons essayé, et puis il se trouve qu'ici en France nous avons aussi des populations gitanes, donc nous avons commencé par faire une étude aussi approfondie que possible de ce monde rom, tzigane, gitan, etc., et de le faire dans une approche comparative qui a toujours été celle d'ICEO, voir un peu ce qui se passe d'un côté, voir ce qui se passe de l'autre, voir les éléments de convergence. Donc nous avons fait d'abord un travail, je crois, assez approfondi d'études et de réflexions. Pierre s'est chargé de faire un premier jet ou un premier jus, mais déjà très fouillé, sur le sujet. Moi, de mon côté, j'avais essayé de balayer à travers Internet tous les sites dans la plupart des pays qui travaillaient sur ce sujet. Et donc, après un travail itératif sur la base de ce que Pierre avait déjà posé, on est arrivé à un document de fond qui est, je crois, quand même assez fouillé, qui pose assez bien le problème.
Donc et ce document de fond qui a été publié en littérature grise, à titre
voilà,
interne,
en
2005
oui. Oui, je crois qu'on a commencé à peu près en 2005, on l'a approfondi, on l'a développé ensuite.
Alors, Pierre Chevalet.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que si on a fait un travail spécifique, c'est que la scolarisation des Roms présente un problème spécifique. Ce n'est pas nous, extérieurs, gadgets, qui le disons, ce sont les Roms eux-mêmes qui le disent. Je cite souvent Alexandre Romanesch, qui est un écrivain qui travaille chez Gallimard, qui est un gitan, une gitane, il s'appelle gitane parce qu'il veut au féminin, enfin il veut féminiser ce mot, qui connaît très très bien le problème, et qui dit... Votre école, c'est-à-dire l'école de la République en France, l'école de tous les gadgets d'Europe, elle n'est pas faite pour nous. Donc si un Rom dit que l'école n'est pas faite pour eux, il faut se poser la question de savoir quelle école on peut faire pour eux. Et tout le drame, et c'est là le chapeau du travail qu'on a fait, c'est s'imaginer qu'on peut les faire passer par le moule de l'école républicaine, c'est ne pas avoir compris que... Si on les fait passer par le moule de l'école républicaine et qu'on réussit, ils ne seront plus Roms. Si ils veulent rester Roms, ils ne peuvent pas passer par l'école classique puisqu'ils ne veulent pas perdre leur identité. Donc c'est le problème essentiel de minorité, identité, etc. Nous, on a essayé de trouver un schéma, c'est ce que va développer Jean-Marie, un schéma qui respecte leur identité et qui fasse que ça soit positif pour eux. Au niveau culturel et économique même.
Et quand vous parlez de scolarisation, Jean-Marie Roussignol, vous parlez de la scolarisation en France ou de la scolarisation de ces Roms en Bulgarie ou en Roumanie ?
Alors, ce qu'on a essayé de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une approche comparative. Donc, ici, on a étudié, on a pris des contacts avec des milieux gitanes français, dans le Midi, à Montpellier, dans d'autres villes. Je suis allé une fois participer à Agde à un colloque organisé par une association gitane qui fédère plusieurs associations de base. Pierre est en contact avec des gitans de la cité...
Gély.
Il est voisin de cette cité.
Il est presque rome, en
pas
fait.
Tout à fait mais, pas tout à fait, mais ça vient. On a pris contact avec des écoles qui scolarisent les enfants gitanes ici, et pour voir quels étaient les problèmes que cela posait, quelles étaient les particularités qu'il fallait prendre en compte, etc. Et de notre côté... On s'est appuyé principalement sur la Roumanie parce que ces dernières années, c'est quand même le pays où l'on va le plus souvent. On a vu qu'il y avait beaucoup de convergences dans les mentalités, dans les réactions face aux problèmes scolaires, etc. Donc, sur la base de tous ces éléments, sur la base des recherches que l'on a faites sur les différentes politiques que menaient différents pays, et on peut constater, et nous avons constaté, que par exemple en Roumanie, mais aussi en Hongrie, dans d'autres pays où les populations roms, tziganes sont importantes, des politiques ont été mises en place qui sont souvent très intéressantes et qui donnent quelques résultats. Pas suffisamment, parce que comme je l'ai dit peut-être la dernière fois où nous avons évoqué le sujet, beaucoup de roms ou tziganes qui ont réussi à faire des études, à passer à travers tout le filtrage du système scolaire et éducatif, et qui sont arrivés à boucler des études universitaires, souvent, ils cherchent à sortir de leur communauté, à ne plus se faire considérer comme Roms. C'est une réussite pour l'intégration personnelle, la leur. Mais c'est une perte pour leur communauté, puisque la réussite qu'ils ont eue dans le monde, disons ordinaire, ils auraient pu en faire profiter leur communauté pour que ça serve à faire monter tout le reste.
Ce n'était pas, pas, leur... pas de leur intention. Et ça représente un pourcentage important, ces réussites individuelles ?
Ça dépend pas, non, pas vraiment un pourcentage important, mais quand même des gens qui sont arrivés à un statut de professeur d'université, de gens très importants. On dit même que l'ancien président Iliescu de Roumanie aurait des ascendances tziganes, roms tziganes. Bon. Donc il y a des réussites, mais qui ne sont pas toujours réinvesties dans la promotion de la communauté. Même si de notre côté, il y a des associations tziganes dans ces pays qui essaient de travailler pour aider leur communauté à évoluer et à s'intégrer plus facilement.
Et vous, votre ambition, c'est justement que cette scolarisation bénéficie au plus grand nombre.
Voilà, alors le résultat de tous les travaux de recherche, de réflexion, de contact, d'échange que l'on a eu tant ici en France que dans d'autres pays, ça aboutit à l'élaboration du concept dont je vous avais montré le schéma, qui est le concept d'une structure d'insertion et d'alphabétisation que nous avons schématisé sous forme de plusieurs cercles concentriques, en mettant au centre une structure de gestion d'un projet d'amélioration de l'intégration et de la scolarisation qui s'appuie sur une école. Une école primaire, maternelle, parce que ça commence au niveau élémentaire pour remonter petit à petit.
Une école particulièrement adaptée pour les Roms ou...
voilà. Pas nécessairement une école qui ne prendrait en charge exclusivement que les enfants roms ou tziganes, mais où ces enfants sont nombreux, parfois majoritaires. Nous avons visité des écoles en Roumanie qui sont intéressantes de ce point de vue-là, certaines avec des résultats remarquables, mais avec l'idée que il faut à la fois prendre en charge les enfants, mais pour pouvoir prendre en charge les enfants, il faut persuader leur famille, leurs parents, que c'est l'intérêt de leurs enfants et l'intérêt du groupe tout entier, que les enfants suivent une scolarité régulière.
Ce qui n'est pas évident pour les familles.
Ce qui n'est pas évident, parce qu'ils ne voient pas, en général, les Roms, Tziganes, Gitans ont tendance à vivre dans le présent. Et ils n'ont pas, généralisé, il ne faut peut-être pas généraliser, mais disons qu'ils ne se projettent pas suffisamment sur l'avenir et pour voir l'intérêt de faire quelque chose maintenant pour arriver à un autre résultat plus tard.
Voilà. Mais cette réflexion n'est pas spécifique aux Roms. Il faut dire qu'il ne faut pas avoir une vision racialiste de ce problème. En France, la scolarisation des enfants le siècle dernier a posé le même problème, c'est-à-dire que dans les familles très pauvres, culturellement et socialement, la scolarisation des enfants était vécue par les familles souvent comme un appauvrissement, puisque on faisait travailler les enfants au champ, etc. Donc arriver à convaincre les gens que l'intérêt du groupe, c'est que les enfants investissent dans l'école et quittent le ramassage des pommes de terre, etc., de temps en temps, c'est pas évident.
Mais est-ce dans que la culture migratoire des Roms,
ça c'est encore autre chose.
Encore mais autre chose qui
le problème,
pas
c'est que dans la culture rome, Les Roms, de tout temps, ils ont vécu en état de survie. Hein? Et donc, le Rom, il est dans un état de survie. Et, dans la mesure, et pour lui, le monde est simple. Tout ce qui a été mis sur la terre, c'est le bon Dieu qui l'a mis. Donc, on peut se servir. Donc, c'est comme ça que vous voyez à Sofia toutes les plaques d'égout qui sont arrachées en une nuit. Parce que la réflexion simple, c'est qu'une plaque d'égout, c'est de la fonte. La fonte, ça se vend. Donc, on a besoin de sous. On prend la fonte. Bon. Après ça, vous imaginez bien que la vision du groupe, de la vieille qui va tomber dans le trou, etc., ça pose un sacré problème. Donc, y a toute une bataille culturelle qu'il faut mener, et surtout, ce qu'on met en avant dans le projet qu'on propose, c'est que ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est-à-dire que j'entendais hier soir un débat très intéressant, où on disait dans les quartiers difficiles, on va diviser le nombre d'élèves par deux, par trois. au niveau des Roms, vous pouvez diviser par 10, ça règle pratiquement rien, parce que de toutes les façons, cette formule, hein, c'est d'Einstein, c'est pas avec des méthodes, c'est pas en renforçant des méthodes qui n'ont pas marché qu'on va trouver la solution.
Donc, avant l'école,
il faut changer le mode de pensée.
Avant l'école, la musique, Swing Adjé. Sur cette musique Swing Adjé, une musique que je crois vous appréciez, Jean-Marie Roussignol et Pierre Chevalet, pour évoquer la scolarisation, l'école, la culture, la nécessité pour ces Roms de se projeter dans un avenir meilleur que celui qui est le leur aujourd'hui, à vrai dire.
Oui, donc je reviens sur ce projet SIA, ce schéma de principe SIA, structure d'insertion alphabétisation, qui consiste donc à prendre comme base l'école primaire, voire maternelle, à mettre en place une structure de pilotage du projet, avec l'idée que ce projet doit exister dans la durée. C'est-à-dire qu'au terme d'un projet qui a un début et une fin, il faut que le processus puisse continuer. Donc l'idée, c'est qu'il faut mettre en place dans cette structure non pas seulement des gens extérieurs, mais aussi des gens qui appartiennent à la communauté, qu'on aura sélectionnés, qu'on aura, etc., ceux qui seront suffisamment motivés pour se responsabiliser là-dedans. Et donc, on a considéré qu'il y avait plusieurs cercles concentriques à considérer pour que le projet puisse se mettre en place, fonctionner et perdurer. Donc, au centre, on a mis cette école, mais l'école, pour que les enfants y aillent, suppose que les parents soient persuadés qu'il faut que leurs enfants y aillent. Donc, le deuxième cercle, ou le premier cercle autour du point central, c'est un travail vis-à-vis des familles, de la communauté, des parents, de ces enfants, pour les persuader que l'école, encore une fois, présente un intérêt pour les enfants. Parce que trop souvent, on enlève les enfants, surtout les filles, quand elles arrivent à 13 ans, etc., c'est risqué pour elles de les laisser à l'école, il peut leur arriver des choses. Donc on a tendance à les sortir de l'école.
Éducation des enfants, mais aussi voilà. Des parents,
des
finalement.
Parents, voilà. Donc l'éducation des parents, ça veut dire qu'en plus du travail que l'on fait vis-à-vis des enfants, il y a un travail à faire vis-à-vis des parents, qui est aussi un travail de scolarisation des adultes, en quelque sorte, et d'une aide à la formation à la fois parentale, mais aussi professionnelle. Mais pour que tout cela fonctionne, ces communautés tziganes sont insérées dans d'autres communautés plus larges dans le pays où elles se trouvent. Si on prend l'exemple de la Roumanie pour laquelle on a travaillé, nous avons visité des villages où des communautés roms se trouvent entourées de populations non roms qui ne sont guère plus riches qu'elles. Et donc, ça veut dire que si on met un projet qui focalise sur l'amélioration de l'habitat, des conditions de vie, etc., des familles roms, les autres à côté vont les jalouser, vont dire mais pourquoi eux et pas nous ? Donc il faut aussi, dans un autre cercle, considérer la population qui environne les populations tziganes principales.
Il ne faut pas qu'elles soient pénalisées.
Qu'elles soient pénalisées, ouais. Qu'elles comprennent que c'est un intérêt réciproque de développer tout ça. Mais pour que tout cela fonctionne, encore faut-il aussi que les pouvoirs publics locaux, régionaux, se sentent concernés, soient favorables à cette idée, etc. Donc il y a un travail à faire vis-à-vis de ce cercle-là, et des autorités politiques, et des autorités, et des services administratifs.
Alors
donc,
ça c'est votre papier, Jean-Marie
voilà,
Roussignol.
C'est le papier que nous avons élaboré en commun,
lycéo,
qui est le résultat de tout notre travail.
Théorique, donc, et en pratique alors.
Et en pratique, donc, on a essayé de mettre en place des projets qui seraient basés sur ce principe-là. On avait donc commencé avec des partenaires qu'on avait trouvés dans une ville du centre de la Roumanie qui s'appelle Râmnicu-Vâlcea, où nous allons depuis longtemps, où on connaît des gens depuis longtemps. Pierre était le premier à avoir des contacts avec des personnes de cette ville-là. Donc on a essayé avec eux de monter un projet. On est allé les voir plusieurs fois, tout le monde était d'accord. On avait fait l'esquisse d'un cadre logique de projet, mais quand on revenait ici, finalement, on avait beau titiller nos partenaires locaux pour qu'ils nous envoient les éléments de base, les éléments de chiffrage, de coûts, etc., pour pouvoir mieux ficeler le projet, on n'y arrivait pas. Bon. Le résultat, c'est que la dernière fois où nous sommes allés là-bas, nous avons réussi à trouver une autre partenaire, une autre association, qui a été beaucoup plus réactive et avec laquelle on a pu monter des projets. Pardon. Et on a monté des projets sur Fonds social européen, qui, pour une fois, se faisaient tout en roumain. Alors que, dans notre contexte ICO, nous militons pour un trilinguisme européen, par contre-coup au fait que la plupart des projets européens sont rédigés et exécutés en anglais, excusez-moi, là, tout se faisait en roumain. Et donc, comme je baragouine un peu le roumain, donc c'est moi qui ai été principalement en contact avec notre partenaire roumain, qui, elle, parlait quelques mots de français et quelques plus d'anglais.
Vous arriviez à me comprendre.
On arrive à se comprendre. Bon. Et donc, nous avons donc avec elle élaboré deux projets. Le premier, qui est donc un projet essentiellement Fonds social européen, avec comme paradoxe le fait qu'il devait fonctionner uniquement sur la base d'opérateurs roumains et qu'il ne pouvait pas y avoir de partenariats internationaux. Donc, si nous y sommes associés, c'est par la bande, par le fait que nous pouvons être intervenants sur le projet, conseillers sur le projet, mais à titre ponctuel d'intervention. Ce projet, c'est un projet qui est un projet avec des termes de référence particulièrement compliqués, comme l'Union européenne aime bien les ficeler, peut-être dans le souci d'éviter la corruption, d'éviter, etc., mais un programme très complexe. Et donc ce premier projet, il vise à la mise en place d'un centre communautaire multifonctionnel pour les enfants et leurs familles. Ça correspond assez bien à notre schéma de SIA, de structure d'insertion alphabétisation. Et ce projet, il a plusieurs volets. Un projet qui concerne la scolarisation des enfants, à commencer par le pré-primaire, le primaire, le premier niveau du secondaire, donc quelque chose qui vise les enfants, mais aussi un autre sous-projet ou une autre composante, comme on dit dans le jargon, qui concerne les familles et les parents, pour aider ces familles à, elles aussi, s'alphabétiser si elles ne le sont pas, se conscientiser en tant que parents pour faciliter l'insertion de leurs enfants dans leur système scolaire, et en même temps pour aider ces familles à se former professionnellement. Donc il y a un volet, formation professionnelle, aide à l'insertion sociale, etc. etc.
Finalement, cette association, elle remplit quasiment
elle
remplit, votre projet
même si,
initial.
Voilà, d'après en suivant d'ailleurs le schéma imposé par les termes de référence de l'appel à projet.
Bravo. Hein,
qui colle assez bien avec notre schéma de SIA. Donc,
est-ce qu'aujourd'hui, cette école est construite?
Ouh là là.
On n'en est pas là?
Ça ne va pas si vite.
je
dis un mot.
Nous, il va falloir aller un peu plus vite, voilà, Jean-Marie.
Oui, mais ça ne dépend pas de nous. Nous, on est prêts à aller vite. Et le deuxième projet, c'est un projet un peu semblable, mais plus restreint, si vous voulez, qui inclut des financements nationaux roumains et des financements locaux, et qui vise à appuyer des écoles choisies dans des communes également choisies par leur particularisme au point de vue volume de la population rom-tsigane, et qui vise davantage à aider ces écoles à mieux fonctionner, à former leur personnel de manière adaptée. Et dans ce cadre-là, nous interviendrons à ICO pour aider à organiser des voyages d'études comparatives qu'on organiserait ici. Nous avons pris contact avec le système scolaire français pour voir des points de chute qui nous permettraient d'organiser ces voyages d'études.
Alors, donc, est-ce que ces projets sont vraiment mis sur les rails? Il va falloir
Alors,
les arrêter rails, bientôt, Jean-Marie.
Sur les rails, c'est une chose. C'est que, d'accord, ils ont été déposés par notre partenaire roumain auprès d'une autorité administrative roumaine qui est censée éplucher les dossiers, les trier, les sélectionner et dire qui aura gagné le cocotier pour recevoir un financement. Mais il se trouve que cette autorité, ils se sont aperçus plus tard qu'elle n'avait pas encore été homologuée par Bruxelles, ce qui retarde les choses. Alors notre partenaire a déposé les dossiers depuis le 15 août 2016. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de réponse. Et on n'aura sûrement pas de réponse avant 2 ou 3 mois. Donc voilà où nous en sommes. Alors il y a une troisième perspective qui s'est ouverte, c'est que la région Occitanie Nouvelle, la grande région Occitanie Nouvelle, a lancé un appel à projet pour 2017, de co-développement international. Alors, nous sommes occupés à voir actuellement si nous pourrions ficeler un petit projet qui pourrait s'insérer dans ce schéma-là et qui pourrait être un troisième volet de notre activité en direction de Tsigane en Roumanie. Voilà où nous en sommes.
Finalement, c'est un grand projet qui a donné des deux petits qui vont certainement aboutir.
C'est un grand projet avec beaucoup de si, encore.
Voilà. Vous reviendrez nous en parler, Jean-Marie Rossignol.
Si on arrive à avancer.
Avec Pierre Chevalet, bien sûr, pour l'ICO. Donc, je rappelle que toutes les informations concernant cette émission peuvent être sollicitées par mail à l'association ICO, info-ico@association-ico.fr. Le site n'étant pas encore tout à fait en fonctionnement idéal,
ça redémarre.
Et cette émission sera podcastée sur le site radiofmplus.org où vous aurez aussi toutes les informations. Merci Jean-Marie Rossignol et merci Pierre Chevalet.
Merci à vous.